Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Raconte ta parentalité. À chaque émission, je recevrai un parent, un couple ou un jeune qui viendra se raconter dans son éducation, sa transmission ou encore sa parentalité. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Fanny. Salut Fanny.
Salut.
Comment tu vas ?
Ça va.
Écoute, Fanny, tu viens un peu de loin.
Un petit peu.
Même si tu as un pied à terre à Paris, est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es, d'où tu viens, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie ?
Alors du coup, je m'appelle Fanny. Moi, je suis née à Paris et durant ma scolarité, j'ai déménagé en Normandie avec mes deux parents. Je suis lycéenne, j'ai 17 ans. Et donc, voilà, je divague entre Paris et la Normandie parce que du coup, j'ai de la famille à Paris. Et donc,
c'est chouette, voilà. Ça.
Ouais, c'est très pratique.
Alors, Fanny, tu n'es pas encore maman à ma connaissance.
Non.
Est-ce que tu souhaites le devenir un jour ?
Oui.
Ok, on en parlera un peu plus tard. Là, l'idée, c'est de comprendre qui est Fanny, justement. Comment t'as grandi ? Comment t'es née ? Dans quel cadre ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis encore avec tes deux parents ou pas ? Allez, raconte-nous un peu qui était Fanny bébé.
Alors, moi je suis la deuxième d'une fratrie, on est trois.
D'accord.
Quand je suis née, j'avais déjà un grand à la maison. Donc c'était, on m'a souvent dit que du coup, ça avait été difficile parce que j'avais pris sa place.
Ah oui, quel âge il a ton grand frère ?
Il a 2 ans de plus que moi, lui, okay. Il a 19 ans.
Ok, donc il avait 2 ans à l'époque de ta naissance et déjà...
Et donc les tensions ont commencé dès mon plus jeune âge en prenant la place de celui qui était là avant moi, ce qui peut tout à fait se comprendre, puisque pour un petit bébé, c'est pas facile. Mmh. Mais, donc j'ai grandi avec mes deux parents. On habitait soit Paris, après on a déménagé à Courbevoie, et puis un jour, ma mère peut prendre sa retraite, et elle décide donc qu'on va aller vivre dans notre maison de vacances qui est à Houlgate, donc en Normandie. Et moi, j'ai été... extrêmement énervée contre...
T'avais quel âge à l'époque ?
Mais je devais être en CE2.
Ok, donc t'étais encore petite.
J'étais très petite et j'avais aucune envie parce que je venais déjà de quitter mon ancienne école et je venais de me refaire des copains, etc. Et là, l'idée de devoir repartir hyper loin. En plus, il pleut.
c'est gris.
Voilà. C'était pas... ça m'enchantait pas du tout. Contrairement à mon frère et ma sœur qui, eux, étaient... très contente de cette nouvelle, apparemment. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai déménagé donc avec ma mère et mon frère et ma sœur, mais par contre, mon père, lui, a dû rester à Paris pour son travail.
D'accord. Il travaille dans quoi, papa ?
Papa, du coup, il travaillait chez Air Liquide.
Ok.
Et il pouvait pas, lui, il avait pas eu l'offre de la retraite ni de mutation, etc. Du coup, il pouvait pas faire autrement. Et donc, on est resté. Et donc, il est revenu en 2020.
Ok, donc vous êtes restée combien de temps avec maman en Normandie avant que papa vous rejoigne ?
4 ans.
4 ans, ok.
4 ans où papa, il revenait que le week-end.
Ok, ça marche.
Voilà. Donc c'était compliqué. C'était un petit sentiment d'abandon ou quelque chose comme ça. Et ça a été un peu compliqué aussi quand il est revenu parce qu'il est revenu après un licenciement.
Ok.
Un licenciement qu'il attendait. Enfin, il était plutôt content de ce licenciement parce qu'il voulait partir depuis longtemps, il voulait nous rejoindre, etc. Sauf que quand j'étais plus jeune, donc en 2020, et que j'apprends qu'en fait il n'est pas revenu pour nous voir, mais parce qu'il a été renvoyé, c'est compliqué et c'est quelque chose. Enfin, si jamais il n'avait pas été renvoyé, peut-être qu'il y serait toujours. Quoi.
Et donc en 2020, tu as.
Je suis en cinquième, donc j'ai 13 ans.
13 ans, oui. Oui, donc à 13 ans, mitigée parce que contente quelque part que ton père revienne, oui. Mais de l'autre côté, en colère parce que cette petite voix qui dit « mais si tu n'avais pas été virée, tu ne serais pas rentrée ».
C'est un petit peu ça.
Et est-ce que du coup, tes parents, ils le mettent en mots, ça ? Enfin, avec vous, vous en discutez ?
On n'en a pas du tout discuté.
Oui. Pour, il est rentré, voilà.
Pour mes parents, il était juste rentré. Et en plus, c'était le tout début du confinement. Il est rentré au tout début du confinement.
Ça veut dire qu'on passe de vie à 4, donc toi, tes frères et sœurs et ta mère, à confiné à 5.
Ouais.
Donc, on réapprend à vivre tous les cinq voilà. pendant le confinement.
Et même, je sais déjà aussi que pour mes parents, c'était compliqué parce que quand mon père est revenu, en fait, ils avaient tous les deux réussi à avoir un équilibre de vie où ils se retrouvaient le week-end, ils étaient contents, mais à la semaine, ça pouvait être plus compliqué, etc. Donc, j'ai vu mes parents faire chambre à part de nombreuses fois, etc. Et donc, c'est vrai que pour des enfants, c'est compliqué de se dire que mon papa est revenu, mais en plus, il n'est pas avec ma maman. Enfin, il y avait vraiment cette distance entre eux, quoi.
On va revenir à cette période-là un peu plus tard. Revenons peut-être avant le départ en Normandie, donc avant tes 7 ans, on va dire, de 0 à 7. Comment tu grandis avec, dans cette famille? Tu dis que c'est un peu compliqué avec ton frère parce que t'es l'enfant qui un peu lui prend sa place, donc il y a un peu des conflits entre vous. Et la naissance de ta petite sœur, du coup, quand elle arrive?
À la naissance de ma petite sœur, du coup, toutes les tensions... Avec ma petite sœur, on a 4 ans d'écart. Okay. Donc, j'avais 4 ans et mon frère 6 quand elle est née. Et avec ma petite sœur, ça n'a pas du tout été pareil. Parce qu'en fait, mon frère a compris que je n'avais pas pris sa place et qu'en fait, il y en avait d'autres en route. Et donc, ça s'est tout de suite beaucoup mieux passé. Mais je me souviens très peu de cette période. C'était vraiment quelque chose qu'on me racontait parce que j'ai deux versions. J'ai ma grand-mère qui me dit que, par exemple, quand elle lui achetait un pain au chocolat, il en fallait absolument pour Fanny aussi. Et après, il y a eu cette période où il ne voulait plus jouer avec moi, apparemment. Enfin, voilà, c'était...
Ouais. Mais t'étais trop petite, c'est ce qu'on te raconte.
C'est ça.
Mais c'est important aussi d'avoir justement ces récits des parents, des grands-parents, des proches qui nous rappellent. Non, mais quand t'étais petite, t'étais exactement comme ça. Donc, du coup, là, ça y est, vous êtes trois, la fratrie est constituée. Comment ça se passe à la maison? Qui pose le cadre? C'est plutôt maman, c'est plutôt papa? De qui tu te sens le plus proche dans la maison?
J'ai eu, en fait, quand j'étais au collège, et donc notamment dès que mon père est revenu, j'ai eu une grande difficulté à trouver ma place dans cette famille à 5. Parce que dans la famille, on a tous des caractères assez défendus.
Fort.
Voilà. sauf mon père et moi.
Ok.
C'est vrai que mon frère, c'était le rigolo, il faisait rire à table, etc. Et ma mère et ma sœur sont très, très émotives.
Ok.
Et donc, cette émotion, quand on est jeune et qu'on se dit, purée, ça pleure, ça s'énerve, etc., moi, je vais me faire petite pour pas en rajouter, quoi. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place, mais c'était dans ma tête.
Ouais, c'était dans ta tête.
C'était dans ma tête et c'était pas du tout volontaire de leur part, etc. C'était vraiment dans ma tête, mais se dire que j'arrivais pas, pour moi, je devais rester petite.
L'enfant tranquille, qui fait pas trop de bruit.
Ouais, de trouver mon autonomie hyper rapidement pour essayer de vraiment décharger un maximum, etc. C'était peut-être pas la meilleure...
Mais à l'instant, c'était ta solution du moment. Ouais. Et ton père, du coup, il a plus ce profil-là aussi d'être plutôt calme.
Ouais, on l'entend pas beaucoup, il est un peu distrait.
Ok, voilà. Donc c'est plutôt maman qui pose le cadre.
C'est plutôt maman qui pose le cadre.
Ok, et du coup, toi, tu te sens plus proche de qui? Enfant, d'abord, avant le départ de papa, t'as l'impression de te sentir aussi proche de ta mère que de ton père, plutôt de ton père que de ta mère?
Je sais que je saurais pas dire exactement pour quand j'étais petite, mais je sais que quand j'ai des souvenirs de mon père et moi quand j'étais petite, c'était des souvenirs un peu conflictuels.
Ok.
Alors qu'avec ma maman, par contre, ça l'était pas. J'en ai pas beaucoup avec ma mère, mais ça c'était pas le cas. Et donc j'aurais tendance à dire que j'étais plus proche de ma maman. Je pourrais même peut-être dire que j'étais plus proche de ma nounou. Mais
parlons de la nounou. Du coup, t'as une nourrice.
J'ai eu plusieurs nourrices, oui. Parce que mes parents travaillaient, ils étaient tous les deux cadres, donc ils devaient... Et donc on a eu plusieurs nourrices géniales, majoritairement vraiment géniales, etc.
Il y en a une qui te marque plus que les autres?
Il y en a deux.
Ouais.
Il y en a deux, il y a Lucie et Samia. Lucie qui a été notre nounou pendant super longtemps. Enfin, peut-être que c'est moi qui exagère là, mais il me semble qu'elle a été là pendant super longtemps.
De toute façon, quand on est enfant, tout est long.
Oui. Et avec qui ça s'est passé, mais enfin merveilleusement, on a encore de ses nouvelles aujourd'hui. Enfin, elle nous a présenté son petit garçon. Je crois que même maintenant il y en a un deuxième. Enfin voilà quoi. Donc c'était vraiment une très bonne nounou. C'était très agréable. Et il y avait Samia. Samia qui est restée un an. Et c'était très agréable. Moi j'ai ce souvenir de, il y avait une émission à ce moment-là, c'était Soy Luna. sur Disney Channel.
Ouais, ma fille, elle a... Ouf. Sœur Luna, elle regarde encore les replays. Toi aussi
oui.
Voilà, ok.
Et c'était, on rentrait, avant que papa, maman, ils arrivent, hop, Sœur Luna, et on disait rien.
Ah, trop bien.
C'était le petit secret de la nounou. Enfin, voilà, et c'était hyper cool.
Ok, donc tu te dis, quand ils rentraient, hop, on disait rien. Donc, tu as été plutôt éduquée autour du jeu, du livre, plutôt que les écrans, ou... T'avais le droit de regarder la télé tout le temps.
J'avais pas le droit de regarder la télé tout le temps. Il y avait des moments pour et des moments pour. Ouais. Enfin, moi, là, il y avait des durées.
Ouais.
Mais par contre, c'était pas banni de la maison.
Ouais.
C'est-à-dire que, enfin, après, on a eu des jeux vidéo, etc. Switch, Wii, enfin, voilà. Et c'était...
Encadré.
Voilà. C'est juste que c'était encadré. C'était pas à volonté. C'est comme les téléphones. Moi, j'avais eu un téléphone plutôt jeune, enfin, à ma rentrée de 6e. Mais par contre, c'était pas la nuit. La nuit, il est en bas, etc.
Ouais.
Quoi. C'était
un cadre. On en reviendra sur ce cadre justement quand tu parleras de ta projection plus tard, un peu plus tard dans l'échange. Du coup, on comprend que maman pose le cadre, que dans la relation, en tout cas dans les souvenirs de relation, tu sentais que c'était un peu plus conflictuel quand même avec papa que maman. Comment ça se passe dans ton souvenir à l'école, dans ta vie sociale? En plus, je crois savoir, Fanny, que ta grand-mère a une place assez importante dans ta vie et même dans ta projection. Est-ce qu'on s'arrête un petit peu sur...
Ouais.
Allez, on parle un peu de mamie.
Mamie, donc Mamie Lee, à la maison. C'est...
grand-mère maternelle.
Grand-mère maternelle.
Okay.
Donc, c'est elle qui a un pied-à-terre à Paris pour nous et pour elle. Enfin, elle habite... là-bas, mais voilà, c'est très pratique parce que c'est grand et donc il y a une chambre pour moi.
Ouais, c'est trop génial.
Voilà. Et donc, ouais, mamie, c'est... j'ai pas du tout toujours été aussi proche d'elle que maintenant. C'était même, il y a eu des moments où c'était plutôt compliqué, où j'ai été plutôt perturbée par des choses qu'elle pouvait me dire, etc. Et maintenant, c'est vrai que c'est... Je la sens vraiment comme un mentor ou quelqu'un comme ça, une personne en tout cas très ressource où je sais que si jamais un moment, même si c'est pas souvent le cas, parfois j'ai pas spécialement envie d'aller lui dire écoute il se passe ça dans ma vie mais je sais que je peux le faire et je sais que c'est apaisant en fait d'avoir cette super grand-mère qui est là pour sa petite fille et que je passe, à chaque fois que je passe à Paris, bah, voilà, je vais discuter avec elle, on va prendre un petit café, voilà, et c'est juste très soulageant d'avoir...
Et puis, mamie un peu militante.
Mamie est très militante.
Alors, pour les auditeurs, Fanny, on s'est rencontrés sur l'Assemblée des Jeunesses, portée par Ashoka, où on a pu passer beaucoup de samedis à discuter et refaire le monde. Et du coup, dans les échanges, effectivement, tu avais parlé justement de ton engagement et tu avais dit que c'était aussi une transmission de ta mamie.
C'est ça.
Donc, j'imagine qu'elle est militante. Est-ce que tu nous dis un petit peu...
Donc, c'est elle qui m'a envoyé la page de l'Assemblée des Jeunesses. Donc, au tout début, c'était même pas encore acté, etc. On avait dit, mais regarde, c'est génial, c'est pour toi, etc. Et donc, de là, je comprends que Mamie Lee, elle est... elle est impliquée, quoi.
Ouais.
Elle veut y aller.
Suit.
Et donc, moi, sachant que j'y étais allée la première fois pour lui faire plaisir. C'était pour Mamie Lee, hop, au moins, c'est fait. Et puis, au final, c'était génial, mais ça, c'est un autre sujet. Mamie Lee, elle a, avec son cousin, ils ont créé un fonds de dotation. Parce que j'ai de la chance, du coup, d'être dans un environnement qui est plutôt bien. Enfin, voilà, j'ai
aisé,
pas du
plutôt.
Tout... Oui, voilà. Mamie... à un fonds de dotation pour des associations qui lui tiennent à cœur. Il y a, c'est, alors, son fonds de dotation, c'est un pied devant l'autre.
Ok.
Il me semble que maintenant, il est suspendu parce qu'il y a un autre projet en cours.
D'accord.
Mais, voilà, et elle est à fond, quoi.
D'accord. Et elle soutient quoi comme genre d'association
C'est par rapport à la précarité des jeunes. Il me semble que c'est vraiment ce... On a été dans notre maison de vacances en Touraine. On a déjà accueilli plusieurs fois des groupes de jeunes pendant une semaine. C'était une association qui s'appelait Espoir 18, où les groupes de jeunes ils venaient et puis on passait une semaine ensemble. Et puis après, c'était un autre groupe de jeunes. Enfin, voilà.
Du coup, tu as baigné un peu dans ce climat à être en contact avec les autres.
Oui.
tous les autres, du coup,
oui.
Avec on va dire des environnements sociaux très différents,
oui.
Culturels aussi.
Oui.
On y reviendra aussi. Du coup, ça y est, on a intégré Mamily à notre discussion. Et puis arrive ce moment où faut aller en Normandie. Donc tu l'as dit, t'es pas enchantée par l'idée, mais bon, t'as pas le choix.
Ouais.
T'arrives en Normandie. Comment ça se passe ton arrivée en Normandie? Comment tu t'intègres, si on peut dire ça?
Eh bien, pas très bien. Pas très bien, mais j'ai eu une super maîtresse de CM1.
Ok.
C'était dans une classe sur le thème d'Harry Potter, et donc je sais que ça a facilité parce que, en tant que grand enfant, c'était génial. Mais c'est vrai que socialement parlant et amicalement parlant, ça a été plutôt compliqué. Donc je me suis fait des copines, mais à cet âge-là, en plus, c'est des petites disputes pour des petits problèmes qui sont pas du tout importants, mais quand on est petit, et surtout quand, du coup, j'avais l'impression que je venais de perdre mon père, etc., et de se dire qu'en fait, c'est pas du tout stable, ça m'allait pas du tout. Et donc, j'ai eu énormément de difficultés à me faire à ce climat de la Normandie.
En plus, c'est vaste, il y a de la verdure, il y a de l'espace.
Oui.
Quand on arrive de Paris, c'est pas la même vie. Ça, tu le palpes déjà,
du haut de
tes 7 ans, 8 ans.
Il y avait le fait qu'il fallait prendre la voiture pour aller à l'école, alors qu'avant, à Courbevoie, j'habitais en face de l'école. Donc on descendait, mes parents pouvaient même me laisser y aller toute seule, c'était pas un problème parce que je pouvais y aller. Et la différence aussi, c'est qu'à ce moment-là, mon frère rentre au collège.
Ah oui, donc vous n'êtes pas deux à l'école.
Voilà. Et ma petite sœur est en maternelle. Donc, je suis toute seule à l'école, même si la maternelle et l'école sont plutôt proches, mais c'est quand même...
C'est pas pareil.
Voilà. Ouais. Et donc, je me retrouve complètement toute seule, même si de base, on n'était pas proches avec mon frère à l'école, etc. Il était quand même là.
Ouais, t'as un repère.
Et du coup, là, c'est vrai que ça a été un gros... c'était pas confortable.
Comme si t'étais lâchée un peu dans le vide, quoi.
Ouais.
Heureusement, du coup, qu'en CM1, tu rencontres cette maîtresse. Et on le dit souvent, on est souvent impacté par un maître, une maîtresse, un prof dans sa vie. Toi, cette maîtresse, elle te fait du bien dans quel sens?
Elle me fait du bien dans le sens où je sais qu'elle est... en fait, elle était calme.
Mmh.
Elle était pas du tout... et puis, elle était impliquée envers ses élèves. C'était vraiment une maîtresse qui voulait qu'on y arrive, qui nous... tirer vraiment vers le haut et qui était attentive. Et ça, c'est quelque chose qui me touche vachement. C'est vraiment l'attention qu'on peut porter aux autres et surtout aux enfants. C'est vraiment ce fait, vraiment, elle était là, quoi.
Elle était là. J'allais te poser une question. Donc là, tu parles de l'environnement scolaire. T'es plutôt une bonne élève.
Ouais.
Ouais. Donc t'as de bons résultats.
J'ai toujours été une excellente élève. J'avais de bons résultats. J'ai failli sauter une classe quand j'étais toute petite.
Ok.
Qui malheureusement n'a jamais abouti, même si je suis certaine que ça aurait dû...
Ça aurait changé les choses pour toi.
Voilà. Mais en tout cas, ouais, j'ai toujours eu de très bons résultats.
Enfant sage,
mais avec son petit caractère.
Avec son petit... Tu le dis avec une petite moue, les autres ne te voient pas, mais moi ça me fait sourire. Donc on arrive dans l'adolescence, ça y est, on arrive au collège. Comment se passe ton arrivée, ton entrée au collège?
Bah, c'est un petit collège parce que on était 200 dans tout le collège. Il y avait que deux classes de par niveau, c'était des classes de 18. Donc en fait tout le monde s'est connu très rapidement. C'était ceux qui étaient dans mon école primaire, en fait on allait au collège et puis c'était comme ça, c'était pas autrement.
Tu trouves ça bien?
C'était compliqué.
OK.
C'était compliqué. Le fait de, en fait, il y a des gens qui ont suivi la même personne de la maternelle au collège. Et c'est beaucoup.
Oui, c'est beaucoup.
Surtout
quand il n'y a pas d'atome crochu.
Ouais, c'est ça. Et surtout quand, en fait, il n'y a personne d'autre. Que c'est vraiment juste nous et qu'il n'y a pas d'autres possibilités, quoi. Donc, c'était compliqué. Le collège, c'était compliqué. Je me suis fait un groupe de copines parce qu'à ce moment-là, toutes les petites filles, elles sont attirées par les filles populaires. Les filles qui parlent avec un peu tout le monde, mais qui sont un peu des pestes.
Ok. Et toi, tu es la fille populaire ou t'es la fille qui a envie de traîner avec ces filles-là?
Moi, je suis la fille qui a envie de traîner avec ces filles-là.
Donc, tu les trouves?
Donc, je les trouve.
Et tu les colles?
Et je les colle. Et je ne les lâche plus. En fait, moi, j'ai eu un réel don, je pense, à cette époque pour... apporter mon aide aux gens.
Ok.
Et vu que dans chaque groupe de populaire, il y a toujours les petites disputes et deux camps qui se forment, puis après tout le monde, puis après deux camps, etc. J'ai toujours été celle qui allait vers la personne qui a eu un problème dans ce groupe-là. Mais je ne sortais pas du reste. Enfin, c'était vraiment que les populaires. Mmh. Et j'allais voir la personne qui avait eu un problème. Et moi, je me disais, ah, génial, je suis en train de l'aider et tout. C'est
ça
trop bien et tout.
Tu te sentais utile?
Ouais. Et je me suis dit, comme ça, elle va grave m'aimer, elle va grave m'intégrer, etc. Alors qu'en fait, j'étais un peu le bouche-trou. Mmh. C'est une expression qu'on utilisait souvent. C'était vraiment de se dire, là, j'ai perdu toutes mes copines. Mais non, parce qu'il y a Fanny qui est là. Et par contre, après, quand c'est terminé...
Tu le ressens, ça. Ouais. C'est marrant ce que tu dis, parce que quand on parle avec les enfants, les jeunes, on entend souvent des jeunes qui, justement, n'arrivent pas à trouver leur place dans ce réseau, de se faire des vrais amis. Et souvent, ce sont des enfants qui sont très gentils, empathiques, généreux, et qui, comme toi, en fait, vont être très sensibles à ne pas laisser celui qui est tout seul dans son coin, celui à qui on ne parle plus. Et en même temps, dès que les choses sont réglées, hop, on va te mettre de côté et on reprend sa petite vie. Donc, comme si, quelque part, tu es dans ce groupe, mais tu ne l'intègres pas vraiment.
Ouais.
Tu es celle qui est là, ok. Tu es la bonne personne quand, quelqu'un se sent un peu seul, mais tu n'intègres pas vraiment ce groupe.
Ouais.
Et ça, tu le ressens uniquement à l'école ou même quand il y a des sorties d'organiser, des anniversaires.
Je ne suis pas dans les sorties, je suis rarement aux anniversaires.
On ne t'invite pas?
Pas trop.
Ok. Ouais.
Je suis vraiment la copine du 8h-16h.
Ouais, ok.
Si jamais j'ai un souci.
Ok. Ça, tu le vis comment du coup?
Je le vis bien. Je le vis bien et c'est qu'après que je me rends compte qu'en fait je le vivais pas bien.
Mmh, ok.
Mais
donc, sur l'instant, tu le vis bien, ça convient.
Ouais, pour moi, je me dis, ah, mais c'est trop chouette, il y a plein de monde avec moi et tout. Alors qu'en fait, après, je me rends compte qu'on s'est complètement servi de moi et que ça n'a jamais été sincère. Mmh.
Donc en fait, sur l'instant, on entend bien que ça te convient parce que aussi t'as ce besoin d'être accepté par le groupe des populaires. Et c'est bien plus tard en grandissant que tu te rends compte qu'en fait, l'amitié, c'est pas ça.
Ouais.
Ok. Donc là, on est au collège, donc on a compris un petit peu ton cheminement dans ton rapport au père. La scolarité se passe toujours aussi bien?
Ouais, j'ai toujours d'excellentes notes. Alors moi, je me souviens de ma prof de maths, de quatrième, qui on avait fait un brevet blanc, parce qu'un brevet blanc de maths, etc. Et elle m'a dit, donc j'avais eu, il me semble, 70 sur 100, ce qui est correct, ce qui est, enfin voilà, à ce moment-là. Et en fait, elle m'a dit, je suis un peu déçue.
Ok.
Et ça m'a tellement choquée de sa part de me dire qu'en fait, j'avais pas forcément tout donné, mais parce que ça le fait, quoi. C'est ok. Et je pense que c'est là qu'a commencé vraiment ce truc de me dire, il faut que j'arrête d'avoir des bonnes notes parce qu'on me met trop...
De pression?
Ouais, okay. On a trop d'attentes. Et donc à ce moment-là, j'ai tout envoyé balader et je n'avais plus de bonnes notes.
Ok,
ouais.
on en parlera dans la deuxième partie parce qu'on va se focaliser aussi sur ton parcours scolaire. À la maison, du coup, hop, c'est l'adolescence. Vous la vivez tous les quatre, cette adolescence, parce que papa, il rentre dans les années 2020,
ouais.
Donc bien après. Comment ça se passe à la maison? On trouve l'équilibre, les règles, le cadre? Et puis du coup, maman, en plus, maman est à la retraite à ce moment-là, donc du coup, elle aussi, elle reprend sa vie. Est-ce qu'elle est active ou est-ce que c'est plutôt maman au foyer?
Non, elle a fait une formation de sophrologue.
Okay.
Parce que du coup, elle a pu partir à la retraite à 38 ans.
Ah ouais, super.
Donc, elle n'allait pas ne plus rien faire, etc. Donc, elle a fait une formation de sophrologue, elle a exercé un peu partout. Ensuite, elle a exercé en tant que CPE, quoi. Donc elle
est dans le milieu scolaire aussi.
Ouais.
Ok.
Elle est hyper...
active.
Ouais.
Donc, comment ça se passe, les relations à la maison, dans l'adolescence? Est-ce que ça va mieux avec ton frère ou c'est toujours chien et chat?
Ça va mieux avec mon frère. Mais en fait, c'est vraiment une relation où on se parle pas.
Ouais.
Y a pas de problème. Mais c'est chacun dans son coin, quoi.
Y a pas de réelle relation, quoi.
Ouais,
on sait qu'on est frères et sœurs, on vit ensemble, mais on n'est pas en lien.
Ouais, c'est ça.
Et avec ta sœur?
C'est pareil.
Ok.
À ce moment-là, c'est pareil, vraiment, y a pas vraiment de relation. Mais je pense que c'était volontaire de ma part de me dire que c'était vraiment... je me suis écartée, quoi. Je me suis dit non. C'est ma famille, mais je ne veux pas être proche d'eux.
Pourquoi? Est-ce que tu arrives à comprendre
parce
pourquoi?
Parce que je pense vraiment que ça m'a fait énormément de mal le fait que j'ai qu'on m'ait demandé de quitter ma petite vie tranquille, etc.
Donc t'es en colère ?
Ouais, j'étais vachement en colère. À ce moment-là, en plus, j'ai eu un incident qui m'a traumatisée quand j'étais en cinquième. Et du coup, là, à ce moment-là, à partir de là, j'ai plus du tout cherché à entrer en contact avec les gens de ma famille parce que j'avais plus envie. J'avais envie juste d'être toute seule.
Ok. Cet incident qui t'arrive, du coup, en cinquième, on prend 2 minutes pour en parler. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu veux bien nous raconter ?
Je veux bien vous raconter, c'est très compliqué parce que je n'ai pas tous les éléments.
Ouais, ok. Ce dont tu te souviens, et puis tu t'arrêtes au moment où tu sens que tu as envie de t'arrêter.
Bien sûr. J'ai subi une agression sexuelle quand j'étais, du coup, je pense en cinquième, je n'ai pas tous les éléments, je ne saurais pas exactement parce que j'ai fait un gros blackout sur ça. Et donc, c'est à ce moment-là que vraiment j'ai développé cette colère envers mes parents, parce que j'étais tellement, enfin, quand t'es enfant tu penses que maman et papa ils savent tout, ils ont les réponses à tout, ils sont au courant de tout, etc., alors que c'est pas vrai du tout. Et j'étais tellement en colère contre eux de me dire qu'ils savent ce qui vient de m'arriver, ils font rien pour m'aider, alors qu'en fait ils sont pas du tout au courant. Et donc j'ai pris un recul énorme par rapport à ma famille, et j'étais dans ma chambre et je voulais pas leur parler, quoi.
Parce que c'est vrai qu'on grandit, et quand on met au monde nos enfants, on a ce devoir, mais aussi cette volonté de les sécuriser, de faire en sorte qu'il leur arrive bien. Et de l'autre côté, on oublie, et merci d'ailleurs pour ça, parce qu'on oublie que l'enfant, lui, pour lui, rien ne peut lui arriver, il est dans une bulle, et nous, on est les super-héros, quoi. Du coup, cette agression sexuelle que tu subis à l'époque, c'est par un membre de la famille ?
Non.
Par une personne extérieure ?
C'est quelqu'un que je ne connais pas.
Ok, donc ça se passe à l'extérieur de la maison, dans quel cadre ?
C'était la nuit, j'étais sortie faire une balade après que mes parents soient couchés, parce que c'était un moment où je commençais déjà à me sentir pas bien. J'allais pas bien au collège, j'allais pas bien dans ma peau, j'avais pas envie, j'avais besoin de prendre l'air. Et en marchant un petit peu dans les rues de ma ville, mauvaise rencontre et... Et je me suis réveillée le lendemain matin. Enfin, on m'a réveillée le lendemain matin. C'est une dame qui m'a secouée en me disant « Mademoiselle, mademoiselle,
donc,
vous êtes endormie
par
terre. »
Tu t'es endormie. Enfin, du coup, il t'a laissée un peu pour morte dans la rue.
Ouais.
C'en est la chair de poule. Ouais. Cette dame te secoue, te réveille.
Et moi, je cours.
Tu cours.
Je m'en vais.
Ok. Et à ce moment-là, quand tu te réveilles, tu sais ce qui t'est arrivé ?
Pas du tout.
Pas du tout. Donc
je pense que je le sais, mais elle me réveille, il devait être 2h30 du matin, je pense qu'elle était boulangère. J'ai inventé plein de choses.
Cerveau, il est conçu pour reconstituer.
Je cours, je rentre chez moi, je dors, et là...
Tu réveilles pas tes parents ?
Plus rien. Ah non. Je réveille personne, je rentre chez moi, j'ouvre la porte, je monte dans ma chambre, je dors.
Ok.
Je dors direct, et je me souviens que c'était très compliqué, en fait, parce que je dormais déjà dans ma tête.
C'est comme si t'étais dans un cauchemar, ou en tout cas, les circuits s'arrêtent et t'es en mode pilote automatique, en fait.
C'est ça, j'avais l'impression, en fait, de déjà dormir, et donc je vais pour me coucher, et là... j'ai eu des énormes nausées, des trucs comme ça. Et ça, je m'en souviens maintenant, mais le lendemain matin, j'avais rien du tout.
Ça veut dire que à ce moment-là, quand tu vas te coucher, c'est comme si, vu que je dormais, quand tu te réveilles, tu as l'impression que c'était un cauchemar, ou tu sais que tu as vécu quelque chose.
Le lendemain matin, j'ai
dormi. Comme si tu t'étais réveillée avec un mauvais rêve en tête, en fait.
Ouais, j'avais même pas
le mauvais rêve.
Je savais que j'avais mal dormi, j'avais une sensation bizarre et tout, mais je savais pas. Et par contre, j'avais une incision au niveau du haut de la cuisse.
Ok.
Qui, à mon avis, s'est produite durant cette agression sexuelle. Et à ce moment-là, je me dis, mais merde, ça vient d'où ? Je ne comprends pas. Je me dis, je regarde dans mon lit s'il n'y a pas eu un truc qui coupe et qui aurait pu me couper sans faire exprès, etc. Et je ne comprends pas d'où ça vient. Et c'était bien là, quoi. Je regarde sur mes vêtements, je vois qu'il y avait du sang et que c'était étrange. Et donc, quelques années... En fait, elle reste, ça me fait une cicatrice. Et quand je comprends ce qui se passe, elle disparaît.
Et moi, comme si elle était là, quelque part, pour que au moment où tu serais prête... tu puisses travailler sur ce qui s'est passé.
Ouais, mais j'ai tellement détesté le fait qu'elle parte, j'avais plus aucune preuve que ce que je me suis dit, c'était vrai.
Ouais, ok.
Et donc j'ai dû travailler sans cette cicatrice que j'ai essayé de refaire des millions de fois et que ça marchait pas en fait, ouais. Elle était pas là, elle est partie.
Quand tu dis t'as essayé de la refaire, tu t'es scarifiée.
Ouais.
T'as essayé de vraiment retrouver cette cicatrice comme ouais. si t'avais besoin qu'elle fasse partie de toi.
Ouais.
Du coup, tu retournes à l'école et tu reprends ta vie avec cette cicatrice ouais. que t'as vue mais que tu conscientises pas encore ouais. à ce moment-là. À quel moment tu prends conscience de ce qui s'est passé et que ça se transforme ensuite en colère contre tes parents?
Ça arrive dans mes cauchemars.
Ok.
C'est mes cauchemars petit à petit qui... j'ai des flashbacks, mais ça a pris 2 ans. Enfin, je sais que mes premiers cauchemars, je les ai eus quand j'étais en 3e. Et donc, ouais, ça...
T'as à peu près 14, 15 ans.
Ouais, voilà. Et sachant que j'avais changé de collège.
Ok.
J'étais partie, j'avais décidé que j'en avais marre de mon environnement, on était trop peu, etc. Et donc, je vais dans un beaucoup plus grand collège où il y avait mon frère qui était au lycée d'à côté. Ok. Voilà, et là, c'est là que les cauchemars reviennent. Et, viennent, tout court. Mmh. Et donc, au fur et à mesure, je comprends qu'en fait, il s'est passé ça. Et
à ce moment-là, donc, tu nous dis, tu développes une colère contre ta ouais. famille. Mais que ça soit tes parents comme tes frères et sœurs.
Non, mes parents.
Juste tes parents.
Ouais.
Donc là, t'es en colère contre eux parce
ouais.
qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas compris.
Ouais.
À quel moment tu leur en parles? Est-ce que jamais. Tu leur en parles?
Jamais. Je leur en ai jamais parlé avant, ça fait un mois.
Donc là, il y a un mois que tu leur déposes ça.
Ouais.
Donc, au moment où tu le conscientises, ou en tout cas, tu commences à avoir ces cauchemars, t'as pas d'aide extérieure, t'en parles à personne.
Mm-hmm.
Ni tes copines,
non.
Ni un adulte autour de toi.
Personne. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais ma meilleure copine qui était... On était tout le temps fourrés ensemble, etc. Et je me souviens inventer une version de ce qui s'était passé parce que j'avais pas envie de dévoiler ce qui s'était vraiment passé.
Okay.
Et donc, j'invente une scène complète, enfin, voilà.
Parce que t'avais quand même besoin d'en parler, du coup.
Ouais. J'avais ce truc de me dire, elle, je peux lui parler de ça.
Ok.
Et donc je lui ai dit ça, mais c'était pas la vérité, c'était ma vérité, mais c'était, enfin voilà quoi. Et du coup, je sais que je lui en ai parlé une fois sur son toit, on était en train de fumer et on s'est dit, allez hop, je te balance ça dans la gueule. Et puis après, on est parti se coucher.
Et on n'en a plus jamais reparlé?
Non.
Elle n'a plus jamais reparlé, elle non plus?
Elle m'en a reparlé, mais c'était des conversations qui étaient très simples.
Ok. Comme si à cet âge-là, on prend pas. La notion de gravité ou
non,
si
je pense qu'elle
vous
savait
en parlez avec légèreté.
Elle savait que c'était grave, mais elle savait que j'étais beaucoup plus forte
okay.
que ça.
Donc toi aussi, à ce moment-là, tu te sens de porter ton truc toute seule.
Ouais.
T'as jamais eu envie de porter plainte?
Jamais.
D'accord. Donc, tu continues à grandir. Là, il y a un mois, tu en parles à tes parents.
En fait, il y a un mois, j'en parle à ma psychologue. Et en fait, à ce moment-là, j'en parle à ma psychologue et juste après, j'avais un rendez-vous chez le médecin. Et donc moi, je suis sous antidépresseur et ma médecin me dit, Fanny, écoute, là, stop, j'ai besoin que t'ailles aux urgences psychiatriques parce que tu me fais peur.
Ok.
Et donc moi, là, je me dis, purée, ma mère, elle est dans le train pour aller à Paris, mon père, il travaille, il n'y a rien qui va, je ne peux pas y aller en bus, quoi, c'est pas possible. Et donc, j'appelle ma psy et je lui dis, écoute, j'ai besoin de te voir là. J'ai besoin de 5 minutes dans ton bureau parce que ça va pas du tout. Et donc, elle me
prise
prend...
Prise de panique.
Ouais. Et donc, elle me prend 5 minutes et je lui dis ce qui se passe. Elle appelle ma mère. Ma mère arrive 45 minutes plus tard. Et c'est là que ma psy lui dit, en fait,
donc,
ce qui s'est passé.
Donc, c'est ta psy qui lui dit.
Alors, j'avais le choix. C'était soit moi, soit elle. Et j'ai choisi que c'était elle parce que moi, je pouvais pas.
Ok. Comment ta maman accueille...
Elle m'a toujours dit qu'elle savait qu'il s'était passé quelque chose de grave et qu'elle savait que... Mais qu'elle savait pas quoi et que c'était à moi d'aller lui en parler, etc. Enfin, je sais qu'un jour, elle m'avait dit ça. Et là, quand elle vient, elle nous dit limite que ça la rassure parce qu'elle sait qu'elle avait vu juste. Qu'elle savait qu'il y avait quelque chose comme ça et que son intuition avait été bonne et que si jamais ma petite sœur avait un problème, ma mère avait la même intuition, elle saurait que c'était vrai. Et du coup, elle a donc évidemment hyper émotive, elle a pleuré,
ouais,
etc. Mais ça m'a, en fait, ça me fait plus du tout mal quand ma mère pleure parce que c'est quotidien. Et c'est vraiment ce truc de se dire que à ce moment-là, moi, je suis toujours en colère de me dire, enfin. Ils vont se l'approprier, ça va être le sujet de la famille, alors que c'est moi, quoi.
Donc, à ce moment-là, t'as pas d'empathie pour elle?
Non, aucune.
Et Est-ce que tu sens quelque chose, parce que tu dis ils vont se l'approprier, donc tu sens quelque chose de l'ordre encore de l'injustice ou quelque chose qui,
ouais.
qui va être en tout cas pas reformulé ou qui va pas se traduire comme tu le souhaiterais.
Ouais.
Toi, tu souhaiterais que ça se passe comment? T'aurais souhaité qu'il se passe comment ce rendez-vous, cette
Mais
annonce?
Moi, j'aurais souhaité ne jamais les mettre au courant.
T'aurais souhaité ne jamais
Sauf
les mettre
que
au courant.
J'avais zappé que dans la légalité, les psychologues avaient le droit, enfin, être dans l'obligation.
L'obligation, ouais. Surtout que t'es encore mineur. Donc,
ouais, c'est pour ça.
C'est important. Et puis, en cheminant, en grandissant, tu comprendras encore différemment, t'auras une autre clé de lecture sur, justement, l'importance que tes parents soient dans la boucle.
Oui.
Surtout que, comme tu dis, psychologiquement, émotionnellement, toi aussi, en fait, c'est lourd. Donc, en fait, dans l'accompagnement, c'est pas du tout la même chose d'accompagner son enfant quand on a conscience qu'il a un trauma et d'accompagner son enfant sans savoir ce qui lui est arrivé. Et même pour le psychologue, tu vois, c'est le travail qu'elle a fait avec toi, il est très important parce que le fait que tu lui déposes ça, on ne travaille pas de la même façon. Tu vois, tu parlais d'antidépresseurs, etc. On ne va pas du tout travailler de la même façon quand on sait.
Ouais.
Et quand on imagine. Tu vois, on peut tout imaginer, etc. Toi, tu aurais donc voulu qu'il ne le sache jamais.
Ouais.
Mais en partant du principe que ça allait savoir, c'est-à-dire les 45 minutes qu'elle met pour arriver, tu sais qu'elle va le savoir.
Ouais.
T'aurais voulu que ça se passe comment?
En fait, je pense que j'aurais préféré... Je sais que j'aurais fini par le raconter. Je pense que j'aurais fini par me dire « Ok, c'est bon, je leur dis, mais quand je serais partie de la maison, ouais. là, ce qui me dérangeait, c'était vraiment de la voir, en fait, le soir à table. »
Ouais, ok.
Et donc, j'aurais préféré que ça se passe... En fait, j'aurais préféré que ce soit hyper neutre.
Mm.
J'aurais préféré que juste la psy, elle lui dise « Écoutez, votre fille s'est fait agresser », que ma mère, elle dise « Ok, ben, j'écoute la médecin, on l'emmène aux urgences. » Mais j'avais pas envie qu'il y ait tout ce... Tout... Enfin...
Cette crise de larmes,
ouais,
cette...
Ouais, non, mais c'est même pas la crise... Enfin, cette exagération okay. de la chose, parce que moi, j'avais l'impression que, sincèrement, c'était la fin du monde pour eux, alors qu'eux ne l'avaient pas vécu.
Mm.
Et du coup, j'avais pas envie de tout ça. J'avais envie juste de garder ma bulle de... Enfin, voilà, quoi.
Donc, tu le reçois comme si tu regardais un truc où tu te dis, mais en fait, ils sont plus touchés, ils sont plus tristes, affectés sont... que moi-même.
Ouais. J'avais l'impression qu'en fait, même ça, ils avaient pris mes émotions par rapport à cette situation. Moi, je la regardais quand elle... Enfin, ouais, je la regardais, je me suis dit, merde, moi, j'ai jamais été comme ça par rapport à ça, quoi.
C'est très important ce que tu viens de dire. C'est comme si il m'avait pris mes émotions. Il m'avait pris, encore une fois, on me prend quelque ouais. chose. Comme si on te dépossédait de toi, ouais. quelque part. Du coup, maman, elle t'emmène aux urgences.
Ouais.
Et qu'est-ce qui se passe?
Aux urgences, on attend. Dans la voiture, très glauque. Parce que moi, j'ai absolument aucune envie de continuer cette discussion. Donc voilà, moi je lui dis « Ah, faudra qu'on appelle le lycée pour leur dire que je suis pas là. »
Ouais.
Enfin, voilà, moi,
tu meubles.
Ouais, j'avais pas envie, je prenais des trucs à droite, à gauche. Je lui disais, je crois que c'était c'était la semaine après notre réunion d'Ashoka.
Ok.
Et donc je lui dis « Ah, mais d'ailleurs, je t'ai pas raconté. Enfin, » voilà, moi je cherche plein de trucs qui n'ont absolument rien à voir avec le sujet.
Et elle?
Et elle, elle accepte.
Ok.
Elle accepte le fait qu'on n'en parle pas.
Ok.
Donc elle m'emmène, etc. Donc je découvre les urgences adultes.
Ah oui,
parce
bah oui.
Que, non, avant c'était...
C'était un autre monde.
Ouais. Et donc ma mère me dépose et après va se garer. Et là on pose tout un tas de questions de beaucoup trop adultes pour ouais. moi. Et donc je dis, bah, y a ma mère qui arrive plus tard, voilà. Et on rencontre du coup une psychiatre. Qui me diagnostique, qui me donne des médicaments qui seront différents de ceux que je prenais avant, etc. Et qui me demande si j'ai envie de rester, en fait, parce que elle sent qu'il y a quand même la nécessité de garder un œil sur ma personne, etc. Mmh. Et je sais qu'à ce moment-là, ma mère a envie de dire oui.
Ah, tu le sens, ça ?
Ouais. Je sens que ma mère, elle a envie de dire oui. Et en fait,
qu'est-ce qui te fait penser ça ? C'est sa posture,
Ouais, c'est comme si elle s'était crispée d'un coup de... C'était pas de soulagement, de se dire, ok, il y a quelqu'un qui peut peut-être aider ma fille, etc. Mmh. Sauf que maintenant, je le vis comme ça, alors que sur le coup, je me suis dit, débarras.
Ok.
Et moi, j'ai dit non. J'ai dit non, je veux rentrer à la maison.
Mais tu voulais rester ou tu voulais...
Je voulais rester. Je savais qu'il fallait que je reste.
Mais t'as dit non pour
j'ai
embêter
dit non
ta mère.
Parce que j'avais vraiment l'impression, c'était pas pour l'embêter, c'est parce que j'avais été hyper touchée du fait que pour elle, c'était débarras.
Ok. Est-ce que tu te dis pas maintenant, vu que t'as un mois de recul, c'est pas beaucoup, mais que peut-être c'était... tu vois, tu dis quand je rentre dans la voiture, j'ai pas envie de continuer cette conversation, etc. Est-ce que tu te dis pas que peut-être à cet instant précis... ta maman, elle se dit plutôt le fait qu'il y ait une prise en charge là tout de suite. Déjà, ma fille sera en sécurité parce que je ne sais pas ce qu'elle peut, comment ça peut se manifester, cette annonce. Donc, du coup, ce côté de mettre son enfant en sécurité. Et l'autre, peut-être aussi d'encaisser la nouvelle. Parce que, comme tu le dis, si rentrer, ça veut dire ce soir, on est à table, tous ensemble, on en fait quoi ? On n'en parle pas, on cache aux autres, on cache pas. Je le dis à son père, à quel moment. Il y a tellement d'enjeux, alors que le fait d'être resté à l'hôpital, ça permet d'encaisser la nouvelle, de rentrer. Forcément, va falloir expliquer à ton père pourquoi tu n'es pas là. Et du coup, tout se met en mots. Et quelque part, c'est comme si on prépare un petit peu. Alors que là, toi, tu dis, non, je veux rentrer chez moi. Donc, on te laisse rentrer.
On me laisse rentrer.
Okay.
C'était mon choix parce que je suis quand même bien accompagnée parce que j'ai deux psychologues, j'ai des médecins qui sont là, etc. Donc la psychiatre sentait pas l'urgence de me garder, mais par contre elle me le proposait parce que pour elle c'était bien. Mais je savais que j'avais pas. Enfin, j'ai dit non et je rentre chez moi et on le dit pas à mon père.
Ok.
On le dit pas à mon père. Mon père il l'a appris.
Vous mettez d'accord de pas le dire avant d'arriver ?
Non.
Ou vous arrivez ?
Pas du tout. On était parti du principe qu'on devait lui dire.
Ok.
Enfin, elle était partie parce que moi, pour moi, j'allais plus rien dire de la soirée. Pour moi, c'était terminé, là, voilà. Et du coup, je lui dis, si tu veux lui dire, vas-y, hein. Te gêne pas. Et j'étais hyper insolente.
Mais quand tu lui dis, si tu veux lui dire, vas-y, est-ce qu'il y a une part de toi qui a vraiment envie qu'elle lui dise ?
Non.
Ok. Donc, t'es vraiment dans ce truc, je veux pas lui dire, moi.
Ouais.
Mais si toi, tu lui dis, ça me dérange pas.
Ouais.
D'accord, c'est pas si toi, tu lui dis, ça m'arrange.
Ouais.
Okay. Voilà.
C'est juste j'avais pas envie de lui dire et je savais que elle aurait besoin de quelqu'un pour en parler et donc je lui ai dit vas-y c'est enfin fais-toi plaisir mais moi je le ferai pas
mais elle lui fait pas mais elle le fait pas elle le fait pas elle le fera plus tard
je le ferai plus tard
c'est toi qui le fais plus
tard c'est moi qui le fais plus tard parce que du coup j'annonce à ma mère que la version qu'elle a entendue c'est pas la bonne. Que voilà, mais que je suis pas prête à donner la vraie version, etc. Et c'était un midi où je déjeunais qu'avec mon père et ma mère, un dîner où je déjeunais qu'avec mon père et ma mère. C'était juste avant parce que la semaine dernière j'étais en stage BAFA pour valider mon BAFA. Et juste en fait, là je me dis c'est le moment parce qu'après je les vois pas pendant une semaine. Oui. Et donc j'ai dit à mon père, ok, il s'est passé ça, au revoir. Et en fait, je lui dis, j'ai été agressée quand j'étais petite, à Dives, et plus rien. Après, je lui dis, vous saurez rien d'autre, rien d'autre, rien d'autre.
Et d'après toi, comment ils se sont sentis ? Tout à l'heure, t'as dit, ma mère, au moment de l'annonce, elle s'effondre, et puis elle exagère un peu la situation. Enfin, en tout cas, comment toi, tu penses qu'ils se sont sentis, tes parents ? Ton père, pour le coup, quand tu lui dis
mon
ça.
Père, pas du tout émotif. Donc, voilà. Et la première réaction, c'est on va le choper.
Ouais, ben.
C'est on va le choper, etc. Et moi, je réponds pas. Moi, je les laisse parler. Je veux plus parler. C'est plus mon affaire, en fait. C'est là que je comprends que j'ai peur que ce soit plus mon viol, que ce soit le leur.
Ouais, ok.
Et gros... pendant une semaine, du coup, pendant tout mon stage BAFA, j'ai été en gros stress de rentrer chez moi en me disant « C'est bon, ils ont dit ça à toute la famille. Ils ont dit que ça s'était arrivé à la famille et pas qu'à moi. »
Ok. À partir de ce moment-là, parce que tu nous as dit que ton rapport avec tes parents, du coup, ça commençait déjà à être distancié.
Ouais.
À partir de ce moment-là, ton rapport avec tes parents, depuis qu'ils le savent jusqu'à aujourd'hui ?
Jeudi, j'ai eu une séance avec ma psychologue et donc on s'est rendu compte que il faudrait sûrement que je fasse de l'EMDR.
Oui.
C'est avec les sensations, etc. Enfin, la psychologie avec des sensations. Et moi, je décide que oui, je veux bien faire ça, mais par contre, j'ai besoin que mes parents me laissent faire toute seule. Je lui ai dit, j'ai pas envie que mes parents soient au courant de tout. J'ai envie que ce soit comme avant, que ce soit moi et vous, et du coup, mes psychologues, mais pas mes parents.
Parce que là, t'as l'impression, en fait, que depuis, t'as l'impression que depuis cette annonce, c'est plus le rapport patient et psychiatre ou psychologue, mais c'est vraiment toi, tes parents et...
Ouais.
Donc, tu perds cette notion de confidentialité, de travail en... Ok. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, tes parents? Qu'est-ce que t'aurais aimé qu'ils fassent?
Moi, j'aurais adoré qu'ils fassent comme si de rien. Mais c'est impossible.
Merci, Fanny.
Non, bien évidemment que c'est impossible. C'est quelque chose qui n'est même pas envisageable pour un parent.
C'est utopique, mais c'est ce que t'aimerais.
Voilà. Mais c'est c'est ce dont j'avais besoin.
Ok.
En fait, de leur dire il m'est arrivé ça et que sur le moment, ouais, il y avait des larmes parce que voilà, j'avais quand même besoin qu'ils sentent que c'était grave. Mais j'avais pas. C'est comme si j'avais envie que plus personne n'en parle.
Ouais. Est-ce que t'as pas aussi. Donc, du coup, tu aurais aimé que personne n'en parle et que ça reste neutre. Peut-être parce que c'est aussi ta zone de confort, vu que pendant des années et des années, tu l'as gardé sans en parler. C'était neutre, tout le monde faisait comme si ça n'existait pas. Pour autant, une fois que c'est posé, c'est indéniablement plus possible.
Ouais.
Avec en tête l'idée que maintenant, ils le savent, comment t'aimerais que ça se passe sans attendre qu'ils ne fassent rien et qu'ils fassent comme si de rien n'était? C'est impossible. Mais du coup, dans ce contexte-là, comment toi, tu aimerais qu'ils réagissent à partir de maintenant?
Et bien maintenant, j'aimerais qu'ils me laissent gérer ma guérison.
Oui.
Donc évidemment, je comprends qu'ils aient besoin d'être présents. Parce que voilà. Et donc j'ai eu cette discussion avec ma mère vendredi, donc hier. Et où je lui ai dit qu'en fait, j'étais tellement en colère que j'avais besoin de les écarter. Et donc en fait, je lui ai expliqué tout mon processus de guérison de ma sixième à aujourd'hui. À tout ce qui s'est passé, etc. Et donc, je lui ai clairement... C'était un peu agressif, je pense, de mon côté, parce que j'avais besoin de enfin dire que j'étais en colère. Et je crois que c'est la première fois que j'ai dû leur dire « je vous en veux ».
Ok. Tu leur en veux. Est-ce que tu les sens démunis?
Non.
Tu les sens pas démunis?
Non.
Tu les sens comment?
Moi, je les sens... Je les sens pas démunis. Je sens que ils savent que je vais bien.
Ok.
Je pense, enfin que je vais bien, c'est un grand mot, mais ils savent que j'ai réussi toute seule. Enfin que voilà quoi, il n'y a pas de souci particulier à se faire pour moi à présent.
T'es sûre?
Ouais. Enfin, je pense que c'est ce qu'ils se disent.
Et tu... Est-ce que tu penses pas, ou est-ce que tu peux peut-être un peu réfléchir sur la question de tes parents? Ton enfant te dépose ça, les premières réactions sont des réactions un peu d'autodéfense ou de protection. Un peu comme ce que tu as expliqué, toi, tu as eu plutôt ce blackout, tu te réveilles, tu as l'impression que tu as mal dormi, mais même quand tu le conscientises, tu te protèges quelque part. Parce que accepter ce qui m'est arrivé, c'est ouvrir la porte de quelque chose et revivre cette chose. Et du coup, est-ce que ce que tu ressens chez tes parents, c'est pas peut-être... en fait, ok, tu viens, c'est lourd. Là, c'est une bombe qui tombe. On ne sait pas faire. Personne ne sait faire. Comment j'interagis? Qu'est-ce que je dois faire? Je dis pas. Je la laisse, je la laisse pas. Et puis, quelque part, tu leur en veux de ne pas t'avoir protégé. Mais...
Je leur en veux de ne pas m'avoir assisté après. Ils ne pouvaient pas me protéger de quelque chose comme ça. C'est moi qui avais décidé de partir, c'est pas eux qui m'avaient ouvert la porte.
Okay.
C'est moi qui ai décidé de cette nuit-là de quitter la maison. Et c'est toujours moi qui leur ai jamais parlé de cette agression.
Donc ça, t'es au clair avec ça? Oui. Et c'est pas sur ça que tu leur en veux?
Non, en fait, je pense que la haine que j'ai envers eux, c'est vraiment celle que j'ai envers moi.
Okay.
Mais par contre, c'est vraiment ce truc de dire que je suis... bien maintenant avec ce qui s'est passé, l'acte en lui-même.
Ok.
J'ai limite envie de dire que je suis en paix avec ça, mais que par contre, tout ce qui s'est passé après, ça, je suis en colère. Tout ce que moi j'ai fait pour survivre, et tout ce que mes parents n'ont pas fait parce qu'ils n'étaient pas au courant.
Mmh. Donc l'enjeu, il se joue vraiment dans ce qui va être posé à partir de maintenant.
Ouais.
Tu l'as dit et moi je l'entends, mais corrige-moi si je me trompe, mais j'entends une voix, toute petite voix, qui dit quand même que tu as besoin qu'on te laisse ton trauma et travailler sur ton trauma et que personne ne se l'approprie
ouais.
à soi.
Ouais. Et je pense aussi que j'ai besoin de digérer le fait que je leur ai dit. J'ai besoin de digérer le fait que je leur ai dit maintenant et pas avant.
Okay.
Que
tu t'en veux pour ça?
De leur avoir dit ou
de jamais... De ne pas leur avoir dit avant?
Non.
Okay.
Non, je m'en veux pas du tout pour ça. Je serais même plus à même de m'en vouloir maintenant pour leur en avoir parlé un jour.
Ok.
Mais non, je m'en veux pas.
T'as et confiance c'est... en eux?
J'ai confiance en eux, mais j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'en eux.
Mmh.
Enfin, c'est...
Mais en même temps, c'est important ce que tu dis. Ça veut dire que notre rôle en tant que parent, c'est de créer la confiance entre vous et nous, mais c'est aussi surtout de faire en sorte que vous ayez plus confiance en vous, puisque après, tu pars. Mmh. Si t'étais à leur place, tu ferais quoi?
Oh, moi, je pense que je serais allée le choper. Moi, j'ai... Mais j'ai... Comme aucun doute. Ah oui, bien sûr. Mais moi, j'ai aucun doute que mes parents ont une réaction de parents formidable.
Mm.
J'en doute absolument pas. C'est encore sur ce point-là que je m'en veux de pas savoir interagir avec eux sur ce qui se passe vraiment dans leur tête à eux, etc. C'est juste que j'ai tellement... Là, j'ai juste besoin de souffler et après de revenir vers eux en leur disant, voilà... Là, il s'est passé ça, maintenant je suis OK pour être
en
avec
parler.
Vous, etc. Mais j'avais besoin d'une pause.
Est-ce que tu ne penses pas que c'est important de traverser cette épreuve collectivement, c'est-à-dire eux et toi?
Alors oui, c'est important. Mais de mon point de vue, c'est vraiment ils se le seraient appropriés. Ils auraient fait de cette agression une agression familiale.
Donc en fait, c'est paradoxal parce que dans ce que tu dis, il y a plusieurs choses qui se confrontent, qui se contredisent et en même temps qui résonnent comme tellement cohérent par rapport à ce que tu nous as dit avant. C'est que finalement, ta condition, c'est est-ce que c'est pas on y va ensemble, on se parle, à partir de maintenant, on fait les choses. Par contre, c'est mon histoire.
Ouais, c'est ça.
Ok. C'est les temps de pause sont importants. c'est difficile parce que tu le dis toi-même, à plusieurs reprises, tu as dit bah, je sais pas. Et eux aussi, je pense qu'ils savent pas. Et du coup, que l'accompagnement aussi à établir un espace de parole pour tous les trois, pour poser les choses, parce qu'elles sont là, ça s'est passé, que toi, tu t'es construit avec, comme tu as pu, faire au mieux, comme tu l'as dit, pour survivre, c'est-à-dire qu'on développe des stratégies pour survivre. Sauf que maintenant que c'est posé, que c'est dit, eh ben, tu as dit, maintenant j'ai besoin de souffler, parce qu'en fait, c'est un poids tellement lourd qui tombe que... Faut apprendre à regagner cet équilibre et ce corps un peu plus léger. Et en même temps, il va falloir travailler ensemble en posant des conditions. C'est-à-dire qu'en plus, là, tu arrives sur l'âge quasiment à la majorité. Ça veut dire que tu vas pouvoir prendre tes décisions aussi. Et c'est peut-être maintenant que c'est important de fixer le cadre avec tes parents pour ne pas créer cette rupture. Parce qu'après, à 18 ans, maintenant, je suis à 18 ans. Donc, je vous écarte tout simplement. Et du coup, ça peut créer un autre trauma chez l'autre. Et puis paradoxalement, tu dis, je leur en veux, mais je sais qu'ils sont formidables. Du coup, ça veut dire que tu conscientises quand même l'idée que malgré le fait que ça soit des parents qui sont formidables à tes yeux, ça n'évite pas le fait d'en vouloir à...
Ouais. Pour moi, ça, c'est deux choses complètement différentes. C'est vraiment de te dire que c'est des parents formidables. Enfin, voilà, ce sont des parents qui ont réussi à être un bon parent. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a des bons parents, mais voilà.
Dans ce cadre-là, tu peux.
Mais que par contre, ça n'empêche pas le fait que parfois, il y a des désaccords et que mon désaccord, là, c'était à ce moment-là et que à ce moment-là, je leur en ai voulu et que je leur en veux sûrement encore aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas le fait que ce sont des parents formidables.
Donc, ce qu'on entend bien, et si tes parents entendent ce podcast, le message, ton message, si tu veux que ça reste ta douleur,
ouais.
Ton histoire, que tu es OK pour travailler dessus parce que tu sais que voilà, et c'est
parce
ce que tu
je
fais
le
déjà.
Parce que depuis toujours, oui.
Et finalement, même si tu le mets en mots, même avec ton psychologue il n'y a pas très longtemps, mais en fait, quand tu travailles, toi, tu sais. Tu sais déjà ce qui t'est arrivé, donc tu as été forte pour entamer ce travail-là. Et ce que tu veux, c'est que le fait qu'il rentre dans la danse ne change pas la donne.
Ouais.
D'accord. Bah, papa, maman, j'espère que vous entendez ça. Et c'est important. Et merci pour ce témoignage. Et on voit bien que ce travail, ce cheminement, il est fait. Et que ton rien ne veut pas dire que c'est pas arrivé ou que tu l'acceptes pas. Ça veut juste dire que tu l'as dit un peu plus tôt dans ton propos en disant j'ai déjà eu du mal à trouver ma place, que ça soit dans la famille, dans le groupe de copains-copines. Et là, du coup, c'est ta place parce que c'est à toi que c'est arrivé. Et pour une fois, tu sais où est ta place et tu veux la garder.
Et c'est vraiment cette idée de garder ce qui m'appartient. Et en fait, c'est ce que j'ai dit à ma mère aussi, c'est que j'ai réussi, c'est pas un exploit, hein, mais que en toutes ces années, de faire de quelque chose de négatif, quelque chose de positif sur le fait que c'était mien. Parce qu'ils m'ont tellement... c'est... J'ai l'impression d'être horrible à chaque fois que je dis ça, mais j'ai eu tellement l'impression qu'ils me prenaient mon positif, que j'ai décidé de garder le négatif et que c'était mon truc. Et pendant des années, j'étais persuadée que c'était génial.
Quand tu dis on me prenait mon positif, c'est-à-dire ton excellence, par exemple, ta sagesse, qui tu es, ce qui t'ont transmis aussi à travers une éducation.
Oui, mon bonheur, mon rire, mon alimentation.
Ça pour toi, c'est la transmission de tes parents ou c'est toi?
C'est moi.
Ok. Donc, et toi, t'as l'impression que ça, on te dépossède de ça. Donc, tout ce qui brille en famille, c'est grâce aux autres, c'est la propriété des autres. Et du coup, pour toi, la seule chose que tu peux t'approprier à toi-même, c'est ce dont personne ne veut.
Ouais. C'est ça. Et moi c'est ce... J'en parlais avec des copines. Et avec des copines qui ont vécu quelque chose comme ça, mais sans... Moi, je ne leur ai pas partagé mon expérience, mais qui ont vécu quelque chose comme ça. Et en fait, je sentais bien que ça les faisait briller. En fait, c'était de la douleur et c'était pas facile, mais que ça les rendait magnifiques, en fait, parce que c'était leur truc. Et que,
ça, c'est ton regard, regard que toi, tu poses sur elle.
Ouais.
Ok.
C'est sûrement peut-être pas le regard qu'elle posait sur elle-même.
Mais c'est ce que ça te renvoyait à toi.
C'est ce que moi, ça m'envoyait, et c'est ce que moi, je me renvoie à moi-même quand...
Aujourd'hui, quand tu te regardes, tu te sens briller à travers ta souffrance?
Alors aujourd'hui, je me regarde pas trop. Mais...
Quand tu t'entends?
Quand je m'entends. Non, je suis très fière de moi.
Ok.
J'ai vraiment je suis très fière de moi. Ouais.
T'as dit de toute façon, juste le fait d'avoir la force de transformer ça en quelque chose de bon pour toi, de positif, ça te rend fort.
Ouais.
Pour autant, t'es consciente que ça n'aurait pas dû arriver.
Ouais, bien sûr.
Et que si un jour, en tout cas, tu décides pour avancer davantage, de déposer plainte, même contre X, pour être reconnu dans ce statut de victime ou pas.
Mais je pense que c'est ce que je vais faire. En fait, et ce que je voulais pas, c'était que de pas réussir à le retrouver. Parce que je pourrais jamais le retrouver. Mais quand je me suis renseignée, j'ai compris qu'on pouvait aussi le faire avec des personnes qu'on connaissait pas, anonymement. Oui.
Juste pour avoir, en tout cas, aller au bout de cette démarche, puisque t'es en train de le faire, mais de se dire, ça m'est arrivé, ça aurait jamais dû m'arriver. C'est atroce. Et l'autre en face doit être puni. Et même si moi, je ne l'attrape pas lui, parce que je ne peux pas l'identifier, juste le fait d'aller poser cette plainte, c'est reconnaître le fait que ce qui m'est arrivé, ce n'est pas normal et que ça ne doit pas rester impuni. Et après, faut le détacher effectivement de l'espoir de retrouver l'autre, ce qui n'est pas en soi impossible parce qu'on ne sait pas. En fait, on ne sait tellement pas. Mais juste le fait d'arrêter quelque chose comme ça, c'est aussi le fait de dire, bon, en tout cas, moi, même si je te retrouve pas, espèce de petit con, je suis pas OK avec ça.
Ouais.
Et du coup, je martèle et je dépose le fait que c'est arrivé et que je suis pas OK. Et que si un jour, par pur hasard ou pas, on te retrouve, sache que moi, la première, je t'aurais dit non. Donc, Et c'est pas, il y en a qui vont guérir à travers le statut de victime quand l'autre est identifié et que la sentence tombe. Et des fois, il y a des femmes, juste le fait de poser la plainte, c'est aussi arrêter le truc en disant « Ok, je suis pas en train de rêver de te rattraper, mais en tout cas, je vais quand même dénoncer ça. »
Ouais.
Merci Fanny pour ce témoignage. Merci. Est-ce que pour d'autres personnes à qui ça pourrait arriver aujourd'hui, avec le recul, sans faire de parallèle avec toi-même, est-ce que tu as envie de leur dire quelque chose?
Ça va aller. C'est vraiment se dire que ça va aller et ça ira pas sur le moment. Ça, j'en doute pas. Et il faut une force que tout le monde n'a pas. C'est de se dire que vraiment, la force, au début, on pense qu'on l'a pas, mais elle arrive avec avec ce trauma et ça va aller. Ça va finir par... ce sera toujours avec vous, ce sera votre trauma à vous, mais ça va aller.
Merci Fanny. Aujourd'hui, est-ce que tu as des projections pour plus tard? Est-ce que tu te vois avoir une famille, des enfants ou pas?
Ouais.
Ouais.
Je me vois avec des enfants, je me vois peut-être pas avec une famille, avec un compagnon, une compagne stable. Voilà, ça je peut-être pas.
Ah bah, mais tu viens de spoiler ma question.
Mais en tout cas, je me vois avec des enfants.
Et quand tu dis pas forcément avec un compagnon stable, en tout cas avec quelqu'un de stable en face de toi, ça veut dire qu'aujourd'hui tu n'imagines pas ce modèle familial classique, un père, une mère, des enfants?
Non.
Ou est-ce que c'est que tu n'as pas confiance en... Enfin, que tu ne visualises pas un style de personne qui pourrait te convenir sur du long terme?
Je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu de se dire que je sais que je vais avoir du mal à trouver quelqu'un qui pourrait me correspondre quasiment à 100%.
Comment serait cette personne si elle existait?
Mais en fait, je crois que j'ai pas envie qu'elle existe vraiment.
Ok.
C'est un peu ce truc de se dire que j'ai pas envie d'avoir à construire, même si je suis une amoureuse du mariage.
Mmh. Ah, et, c'est marrant.
Je suis une amoureuse du mariage, je suis une amoureuse de l'amour. Voilà, moi, les mariages en noir et blanc, les mariages, enfin voilà, partout, ça me touche tout le temps. Mmh. Et je sais que j'ai souvent rêvé d'avoir un beau mariage. En plus, je suis chrétienne, donc à l'église, etc. Non.
Plus maintenant.
Je ne l'imagine pas du tout. Par contre, j'imagine mes beaux-enfants, ouais.
Ouais. Est-ce que ton expérience, du coup, a ébranlé ton schéma de la famille? Est-ce que tu penses que c'est dû à ton expérience, cette envie de ne pas être avec l'autre?
C'est possible. En fait, c'est possible que je décide de faire des choses seule. En fait, je pense que c'est pas forcément une question de l'autre, mais c'est vraiment une question de moi, je veux être seule.
Ok. Donc ça n'a rien à voir avec cette expérience, ça n'a rien à voir non plus avec... le rapport avec tes parents?
Non. Je pense que c'est vraiment mon besoin.
Ton besoin.
De le faire toute seule.
J'ai une autre question auquel tu n'es pas obligée de répondre, mais qui me vient en tête. Est-ce que cette expérience qui arrive très jeune ébranle aussi l'image de l'homme? L'image, le regard qu'on peut porter sur l'homme?
Au début. Mais ça c'est courte. Au début, oui, parce que c'est la colère. Mmh. C'est tous les hommes, nanana. Mais c'est que le début. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je porte pas du tout ce regard de dégoût sur tous les hommes que je croise, parce que pour moi, c'est...
C'est différencié.
Ouais. Pour moi, c'est pas pareil.
Dans le futur, du coup, bon, on passe la question sur à quoi ressemblerait ton prince charmant ou ta princesse charmante. Et on va directement passer à l'étape, cette grossesse que tu envisages pour le moment seule. Tu es si jeune, peut-être que ça changera. En tout cas, c'est ta réalité à l'instant T.
Ouais.
Par contre, tu les vois déjà, ces beaux enfants.
Ouais.
Et tu les vois comment? Est-ce que tu les visualises est-ce que tu les visualises? Quand tu dis « je vois déjà mes beaux-enfants », est-ce que tu veux... Alors, en plus, tu as dit « je ne suis pas sûre d'avoir un parcours de vie avec une personne qui soit toujours la même dans la vie. » Ce qui ne veut pas dire que tu ne vas pas faire de longs moments avec des personnes pendant un long moment. Mais du coup, est-ce que tu imagines que tu peux aussi avoir des enfants qui ne se ressemblent pas du tout, de pères d'ethnies différentes, de couleurs différentes, des enfants en mode Benetton ou est-ce que quand même, tu as cette idée de te dire que tu veux que tes enfants te ressemblent
Je veux que mes enfants me ressemblent, mais ce n'est pas pour ça qu'ils doivent se ressembler entre eux.
Ok, ça marche.
Voilà, dans tous les cas, j'aurai toujours ma petite part de ressemblance chez eux, etc. Et pour moi, c'est pas grave s'ils se ressemblent pas.
Ouais, okay.
Ils auront toujours ce truc de se dire aussi, bah, c'est la même maman.
Mmh. Ok, ça marche. Comment tu voudrais les éduquer dans le meilleur de tes espérances hein?
C'est encore une question qui est en cours de réflexion. Mmh. Et je pense que ça sera jamais terminé, cette réflexion. Voilà.
Jamais. Mais parce que déjà, si tu t'imagines en maman solo, du coup, parce que t'as dit que tu te voyais pas avec l'autre, t'as dit que tu les voulais seuls, mais est-ce que tu te vois les éduquer seuls ou est-ce que tu te vois les éduquer quand même avec un partenaire?
Je pense que je me vois les éduquer avec mes amis.
Ah ouais, super, ok.
Je pense que je me vois pas les éduquer avec un homme qui partagerait ma vie, du coup je sais que par contre j'aurais absolument aucun problème à faire partager leur vie avec celle de leur papa si jamais c'est leur désir ou le désir du papa, ça c'est évident, mais que je sais que de mon côté chez moi ce sera plus de l'éducation avec mes amis, ouais, plutôt qu'avec l'amoureux ou l'amoureuse de maman.
Ça veut dire que les tontons, les tatas, ouais, super présents, etc., qui viennent aussi renforcer, ouais, l'éducation et ce besoin relationnel, affectif.
Ouais.
Waouh. Jeunesse, on nous surprendrait jusqu'à la nuit des temps. Quand tu évoques tout ce parcours, tout ce cheminement, tout ce qu'on a pu se dire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager sur, justement, toi, la façon dont tu as été éduquée, comment tu as grandi, comment tu t'es construit et comment tu te projettes? Est-ce qu'il y a quelque chose de façon spontanée que tu as envie de partager avec les auditeurs, là, maintenant?
Non.
Non, c'est bon, on a fait le tour de la question
tour, ouais,
sur qui tu es, comment...
Ouais.
Fanny, je te remercie pour ce premier temps d'échange qui a été vraiment très riche. Et du coup qui a un peu aussi bouleversé le fil de l'interview, mais si justement ça l'idée c'est de se raconter et peut-être que tu vois on l'avait même pas imaginé et ça a été déposé, comment là tu te sens parce que tu du coup là tu vis à la maison ou
ouais,
t'es encore à la clinique ou finalement tu es allé à la clinique ou pas?
Non,
finalement t'es resté à la maison?
Non. Ouais.
Ok. Là, comment tu te sens par rapport à tout ce que tu as pu déposer? Parce que ce qui est important aussi de se raconter, c'est important parce que du coup, c'est un exutoire. Ça, ouais, permet aussi aux autres d'entendre.
Ouais, moi, je pense que je passerai un moment à la clinique. Je pense que ça ne serait pas anodin et ce ne serait pas inutile de passer un petit peu de temps avec ces professionnels qui sont là pour ça parce que. Et je pense que ce sera aussi un moyen de souffler de mes parents.
Mmh.
Je pense que ce sera ce moment de se dire, là, c'est moi qui prends les choses en main avec mes spécialistes, avec voilà, mais pas mes parents. Et je pense que ce sera important pour moi. Et voilà, mais sinon, je suis à la maison. Et après, moi, je m'imagine partir de la maison, avoir mon appartement et continuer.
Assez rapidement,
mes études.
C'est quelque chose que tu aimerais faire rapidement.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose que tes parents savent?
Ouais. Bah, depuis que je suis toute petite, j'ai envie de partir.
En fait, t'es née, tu voulais déjà ton appartement. Dernière chose, c'est OK pour toi, là, ça va, tu te sens bien?
Ouais.
OK, super. Pourquoi je te pose cette question? Parce que là, dans ce qu'on s'est dit, ça va être, c'est tellement puissant, que ça soit pour les jeunes qui nous entendent et qui peuvent vivre aussi, ou qui ont vécu, ou qui vivront, on ne le souhaite pas, mais ce genre d'expérience, pour les parents aussi. Parce qu'en tant que parent, on ne sait pas comment accompagner son enfant, on ne sait pas comment faire. Et puis même quand notre enfant nous reconnaît ce titre de parent formidable, bah on peut quand même se foirer. Donc je pense que c'est important aussi. J'espère aussi que ce podcast permettra à tes parents d'entendre et de mieux appréhender ou appréhender différemment la suite. Je te remercie énormément pour cette première partie de témoignage. On va rendre l'antenne. Je remercie mon Paris FM, je remercie nos auditeurs. Vous pourrez écouter Fanny dès la semaine prochaine, dès vendredi soir. Et merci, à bientôt. Ciao.